France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
Arnes, dans le Pas-de-Calais. En 1967, les mines y sont encore en activité, mais plus pour très longtemps. 1967, Marguerite Duras vient de publier « L'amante anglaise ». Quelques jours après sa rencontre avec les élèves du lycée technique Jules Ferry de Versailles, elle est à Arnes, au milieu des mineurs et des femmes de mineurs. Dans le cadre de la quinzaine de la lecture sur France Culture, c'est une Duras intimidée qui lit et commente avec eux des extraits de plumes de Michaud, de Moby Dick et du discours sur le colonialisme de Césaire. Elle les questionne sur leur lecture, sur la place des livres dans leur vie.
Quinzaine de la lecture, quinzaine des lecteurs. Les veillées de France Culture. Une émission de Roger Pilaudin, réalisée par Georges Perrou.
Voici la troisième des six émissions « Pour lire à la veillée » que vous pouvez entendre sur France Culture jusqu'au samedi 9 décembre et auxquelles ont prêté leur concours Michel Butor, Jean-Pierre Chabrol, Claude Simon et, ce soir encore, Marguerite Duras. Rappelons le but de ces émissions inscrites dans la quinzaine de la lecture. Il s'agit, pour les écrivains que je viens de nommer, de proposer à un auditoire restreint mais homogène un choix de pages. Et, à partir des thèmes fournis par ces textes, d'établir un contact vivant et, si possible, d'engager un dialogue avec l'auditoire. Marguerite Duras anime ce soir une seconde veillée, enregistrée dans la bibliothèque de la fosse 4 de Arnes, Houillères du Nord et du Pas-de-Calais, avec un groupe de mineurs.
Mineur, je suis née dans un pays minier. Tant soit peu, je suis mêlée à la mentalité du minier. Mais la poésie, surtout dans le moderne, je ne crois pas que ça.
Est-ce que c'est la vie
ça
de...
doit donner tant que ça. Ah,
non, si on était venu pour vous lire des choses que vous lisez déjà, ce ne serait pas très intéressant. C'est exactement pour vous dépayser. Voilà. Si vous entrevoyez quelque chose dans ces textes, vous nous le dites. Si vous ne voyez rien, vous nous le dites aussi. C'est à vous de nous dire, c'est pas à nous. C'est à nous à apprendre de vous en ce moment. On vous propose des choses et vous nous répondez. Ça. Si on vous embête beaucoup, il faut le dire.
Vous nous dites un peu qui vous êtes, vos noms.
Oui, par
vos
exemple,
noms.
Monsieur.
Allez, Maurice, à toi l'honneur.
Monsieur.
Paul Edouard, agent de maîtrise, au fond.
Tremba Cheslas, et chimiste, on vous raconte.
Lorne Charles, technicien.
Elvalo Emile, gazier à la fosse d'Athéa.
Madame.
Madame Kukler, sans profession.
Femme de mineur.
Bien sûr.
Myriam Tremba, femme de mineur.
Pocheva Jean, ingénieur du fond.
Pocheva Raymond, retraité.
Henri Cubzac, fils de mineur, étudiant en droit.
Michel Jean, mineur fond.
Auquet de Pierre, chef de canton, chemin de fer.
Alors on va vous faire entendre le premier texte.
On dit deux mots sur Michaud.
C'est sans doute le plus grand poète français. Pour ma part, je le pense. Il y en a deux, il y a Francis Ponge et Henri Michaud. Je n'ai pas pris de texte de Ponge, j'ai pris seulement des textes de Michaud. Voici un tout petit cheval, tiré de plumes. J'ai élevé chez moi un petit cheval. Il galope dans ma chambre, c'est ma distraction. Au début, j'avais des inquiétudes. Je me demandais s'il grandirait. mais ma patience a été récompensée. Il a maintenant plus de 53 cm et mange et digère une nourriture d'adulte. La vraie difficulté vint du côté d'Hélène. Les femmes ne sont pas simples. Un rien de crottin les indispose, ça les déséquilibre, elles ne sont plus elles-mêmes. D'un si petit derrière, lui disais-je, bien peu de crottin peut sortir. Mais elle... Enfin, tant pis, il n'est plus question d'elle à présent. Ce qui m'inquiète, c'est autre chose. Ce sont tout d'un coup, certains jours, les changements étranges de mon petit cheval. En moins d'une heure, voilà que sa tête enfle, enfle, son dos s'incurve, se gondole, s'effiloche et claque au vent qui entre par la fenêtre. Oh! Oh! Je me demande s'il ne me trompe pas à se donner pour cheval. Car même petit, un cheval ne se déploie pas comme un pavillon, ne claque pas au vent, fût-ce pour quelques instants seulement. Je ne voudrais pas avoir été dupe, après tant de soins, après tant de nuits que j'ai passées à le veiller, le défendant des rats, des dangers toujours proches et des fièvres du jeune âge. Parfois, il se trouble de se voir si nain. Il s'effare. Ou, en proie aux rutes, il fait par-dessus les chaises des bonds énormes et il se met à hennir désespérément. Les animaux femelles du voisinage dardent leur attention, les chiennes, les poules, les juments, les souris. Mais c'est tout. Non, décide-t-elle, chacune pour soi, collée à son instinct. Non, ce n'est pas à moi de répondre. Et jusqu'à présent, aucune femelle n'a répondu. Mon petit cheval me regarde avec de la détresse, avec de la fureur dans ses deux yeux. Mais qui est en faute? Est-ce moi?
Vous voulez qu'on continue encore un autre? Qu'est-ce que c'est après?
Oui, essayez encore un.
C'est Baobab.
C'est un poème sur l'Afrique et où il a imité les bruits de l'Afrique. Les bruits des tam-tams, si vous voulez. C'est très difficile à lire, je m'excuse, je ne suis pas une lectrice. J'ai essayé quand même de rendre les coups sourds du rythme.
Télégramme de Dakar. Dans le noir, le soir, auto dans la campagne, baobab, 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 plaine à baobab. Baobab, beaucoup baobab, baobab, près, loin, alentour, baobab, baobab. Dans le noir, le soir, sous des nuages bas, blafards, informes, loqueteux, crasseux, encharpis, chassés vachement par vent qu'on ne sent pas, sous des nuages pour glas, immobiles comme morts, sont les baobabs. Malédiction. Malédiction sur Cham. Malédiction sur ce continent. Village, village endormi, village passe. De nouveau dans la plaine rouverte, baobab, 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 Afrique en proie au baobab. Féodaux de la savane, vieillard scorpion, ruines aux reins tenaces, poteaux de la savane, tam-tam morbide de la terre de misère, messe d'un continent qui prend peur. Baobab. Village. Noir. Noir, combien plus noir que de hâle. Tête noire sans défense avalée par la nuit. On parle à des décapités. Les décapités répondent en nuolof. La nuit leur vole encore leurs gestes. Visage nivelé, moulé tout doux, sans appuyer. Village de visage noir, village d'un instant, village passe. Baobab, baobab, problème toujours là, planté, pétrifié, exacerbé. Arbre caisson aux rameaux lourds, aux bras éléphantiasiques qui ne sait fléchir. Ô lointain. Ô sombre lointain couvé par d'autres baobabs. Baobab, 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 baobab que je ne verrai jamais répandu à l'infini. Baobab.
Parfois s'envole un oiseau, très bas, sans élan, comme une loque. Un musulman collé à la terre implore Allah. Plus de baobab. Ô mer jamais encore aussi amère, le port au loin montre ses petites pinces, escales maigres, farouchement éteintes. Plus, plus, plus de baobab, baobab, baobab. Peut-être jamais plus baobab, baobab, baobab.
Là, vraiment, je voudrais que vous me disiez quelque chose.
Ah.
Moi, honnêtement, je préfère le deuxième.
Si c'est la vraie couleur,
oui, ça dépeint un paysage, ça veut dire quelque chose, tandis que l'autre, il est un petit peu flou. Je sais pas, moi, honnêtement, je préfère le deuxième.
Non, mais enfin, ce que je voulais dire, c'est que vous voulez parler de
quelque chose.
Il dégage quelque chose.
Oui, on voit, on peut s'imaginer un paysage, certains personnages, ou certains arbres, enfin, tout ce qu'on veut, tandis que le premier, il est un petit peu... Il donne à réfléchir,
oui,
si on veut.
Est-ce un songe, est-ce...
Oui, si une réalité, ou a-t-il voulu comparer quelque chose à un cheval, enfin... ça donne plus de matière à réflexion, tandis que le deuxième est beaucoup plus facile à assimiler.
Pour goûter deux poèmes aussi différents, sans préparation,
c'est oui, c'est assez difficile.
Non, mais c'est intéressant, ce que vous
dites. Ardu.
Mais l'Afrique, vous la voyez telle qu'elle est, là-dedans, ou bien...
C'est plus scandé déjà, c'est pas si monotone que le premier, quoi. Oui. C'est plus scandé.
On voit mieux la.
On dirait que ça chante quelque
que
chose.
Que le cheval dans la pièce. Oui. Il vous donne une autre
c'est
impression.
C'est une projection photographique plutôt.
Oui, on dirait une suite d'images qui défilent, tandis que l'autre il est légèrement monotone.
Du poème, ça c'est plus difficile à dégager. C'est plus une vision vraiment, une vision photographique que. Pour défaire, pour faire l'essence du poème, c'est plus compliqué pour nous, pour moi du moins. Pour vraiment comprendre ce que le poète a voulu dire, pour moi, c'est plus compliqué à comprendre.
Mais je crois qu'il a voulu dire ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'il a proposé quelque chose. Il a proposé des images de l'Afrique.
On les voit facilement.
Moi, je le sens facilement les deux.
Ce qui fait que madame doit être surprise, elle s'attendait au contraire.
Le premier poème...
Vous attendiez au contraire.
Peut-être.
Au début, je voulais dire enfin que je ne pensais pas que les mineurs puissent apprécier la poésie, étant donné qu'il leur manque, il semblerait qu'il leur manque une certaine culture, peut-être pas élémentaire, mais enfin pour.
Vous trompez, monsieur.
Oui, c'est justement
il manque,
ça.
Il manque une culture
je reconnais là mon erreur.
À beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens.
On a peut-être l'impression d'être un peu délaissé.
Il suffit qu'il arrive, je sais pas moi, une grève ou quelque chose pour qu'on s'aperçoive que les mineurs existent. Autrement, on n'en parle jamais. On dirait qu'on est une peuplade arriérée, enfermée là, dans le nord de la France, et puis c'est tout. Et même le temps, on a toujours de la pluie. C'est vrai, on n'est pas favorisé du tout.
Mais pour goûter le deuxième poème, ce n'était pas forcément une question de culture.
Non,
ce n'était pas forcément. On veut, sans culture, goûter la sentimentalité du deuxième poème. Alors que
c'est
le
très,
premier
très
est déjà.
Mais le premier, c'est l'histoire d'un monsieur qui a un cheval, qui l'adore, qui le protège. Et le cheval ne grandit pas, il reste un cheval. Et le cheval le rend responsable de son malheur. Il le regarde avec détresse. Et le poème, si vous voulez, pose la question. Où est la faute? La faute à qui?
Pour moi, c'est au propriétaire.
Ou à la nature?
Oui, mais enfin, il est quand même en vase clos. Il n'aurait pas pu se développer normalement comme un autre qui dort après.
Il ne viage pas dans une chambre.
Oui, c'est ça.
Enfin, je me trompe peut-être, mais...
Non, c'est une possibilité. Moi, je voyais plutôt
ce ne serait pas là
l'ordre des choses, la nature.
La transposition de l'éducation d'un enfant qui a perdu sa mère par le père, et enfin tout le schéma freudien des...
Oui, c'est ce qu'on peut y voir aussi.
Aussi.
Et moi, j'aurais vu plutôt ça...
Est-ce
que l'un de vous peut transposer la situation décrite dans le poème en prose dans la vie courante, enfin, plus réaliste?
Oui, ça vous fait penser à quoi?
Un oiseau en cage.
Un enfant inadapté.
Oui, c'est
un
juste
oiseau prisonnier.
J'allais vous dire aussi à un enfant qui ne veut pas.
Un enfant qui fait mal,
oui,
et rendre responsable ses parents.
Il serait trop de gelé, quoi.
Oui, c'est ça.
Les premières phrases m'ont fait
penser
à ça, un enfant.
Bon, madame, ça me paraît très plausible. Et à la fin, on arrive à la question, à qui la faute? C'est la question finale.
Mais je pense pas que ce soit au père, étant donné qu'au début, je crois, on dit que la jument est morte. Enfin, on laisse entendre que la mère d'un enfant serait morte.
Non.
Enfin, je
non, non, c'est-à-dire qu'il est devenu le père et la mère de ce cheval.
Oui.
C'est souvent ce qui arrive quand un enfant vit avec une seule personne, ou le père ou la mère. Il faut, quand c'est une veuve, il faut qu'elle soit à la fois père et mère. Hein? Alors le père, ça peut être aussi la même chose. Il faut qu'il soit à la fois père et mère. Il faut qu'il soutienne pour deux personnes en étant une seule.
Enfin, père et mère, ou bien père et mère ensemble,
c'est
la personne responsable du petit animal ou de l'enfant qu'on peut voir aussi.
Il y a forcément des équilibres. Hein? Quand il n'y a qu'une personne dans un foyer, il y a un déséquilibre pour les enfants. Donc il y a aussi, il peut y avoir des équilibres physiologiques et des équilibres mentaux.
Ne croyez-vous pas qu'un père et une mère donnent toujours naissance à un petit cheval, c'est-à-dire un être qu'on ne comprend pas?
Ah ben, qui comprend l'autre? On ne peut pas connaître même son enfant, même son conjoint de façon approfondie. C'est toujours l'inconnu. On ne connaît jamais vraiment la pensée profonde de quelqu'un. On vit toujours avec des êtres inconnus, même quand c'est son enfant.
Et alors on se sent coupable?
Peut-être un peu, oui. Oui, sûrement. Peut-être de ne pas essayer de comprendre vraiment à fond.
En somme, ce poème ne vous est pas complètement étranger?
Non, absolument pas.
Parce qu'on en reparle.
Non.
Non, mais
il est peut-être
plus difficile à comprendre. Ou alors, pour le comprendre parfaitement, il aurait fallu peut-être lire plus de poèmes.
Ou l'entendre deux fois.
Ou l'entendre deux fois, ou en lire plusieurs pour, bien comprendre sa façon d'écrire, mieux connaître l'auteur. Hein, comme ça, à l'improviste, un seul, on ne peut pas se rendre compte.
Ce serait un amour égoïste.
Oui. Oui. Un peu comme l'amour maternel. Je vais vous demander sur la forme de l'autre poème ce que vous pensez. Vous voulez le voir, c'est très drôle, même de loin. Vous regardez. Bon, voilà.
Le second poème peut plutôt penser à une danse.
Une danse africaine.
Une danse, oui, une danse africaine.
Je crois que c'est ce rythme lancinant qui... nous rapproche le plus de ce
que... Ça, vous
captive, ça captive des gens, hein, de l'entendre.
Et c'est par le rythme qu'il est intelligible, qu'il est ce que fait comprendre.
Oui, bien sûr.
C'est ça la grande nouveauté. Le culot d'employer, le courage d'employer six fois le mot baobab. Comme une sorte de fond.
C'est comme...
Est-ce que vous voulez entendre la fin de ce poème encore une fois?
Oui,
ça vous ennuie pas?
Non.
C'est vraiment les deux premières qui sont les plus simples. Dans le noir, le soir, auto dans la campagne, baobab, 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 pleine à baobab, baobab, beaucoup baobab, baobab, près, loin, alentour, baobab, baobab. Oui, c'était... Vous ne remarquez rien là au début? Je ne suis pas sur les articles.
J'ai l'impression que ça ressemble.
Ça fait petit nègre.
Non, c'est ça, une langue africaine. Enfin, je crois que la plupart des langues africaines sont des langues agglutinantes. Donc.
Sans article.
Sans article.
Mais je pense que c'est pour garder le rythme. S'il avait dit. Une auto dans la dans le noir, le soir, une auto dans la campagne, baobab.
Ou des baobabs.
Le rythme aurait été détruit. C'est
beaucoup plus saccadé.
Oui. Mais l'Afrique là-dedans, qu'est-ce qui vous en semble?
J'ai l'impression que c'est la lamentation d'un Africain, ça. Enfin, je me suis entendu très vaguement, vers le milieu, vers la fin, quoi. Enfant délaissé, enfant de charme délaissé, quelque chose comme ça. Vous voulez relire?
Féodo de la savane, vieillard scorpion, ruine aux reins tenaces, poteau de la savane, tam-tam morbide de la terre de misère.
messe d'un continent qui prend peur. Baobab. Tête noire sans défense, avalée par la nuit. On parle à des décapités. Est-ce que vous voyez l'image ?
Ça fait très actuel.
Oui, absolument.
C'est ça.
C'est ça que j'aurais voulu. Oui.
Ça fait très actuel.
Il date de quand ?
À la première... Oui, j'allais justement vous le demander. Il est très...
C'est les premières œuvres de Michaud.
On le dirait vieux de 2 ans. Moi, j'ai l'impression qu'on y voit déjà un petit peu la douleur de l'Afrique au moment de la guerre et de la séparation. Ça fait un peu peur. Ça fait grand. Ça fait un peu terre brûlée. Ça fait sec. Moi, j'ai l'impression de voir une grande savane, la misère.
Donc moi je vois les gens, ils sont étouffés par cette forêt, par ces baobabs. Ils sont cernés toujours. Il se dégage une tristesse des hommes là-dedans.
Peut-être pourriez-vous nous dire ce que vraiment représente Oscar Wilde.
Je crois que vous l'avez tous dit.
Ah oui.
C'est-à-dire que l'Afrique était en proie au colonialisme à ce moment-là.
Oui, voilà.
Complètement.
Et c'est un peu le serpent qui se défait de sa gangue et de sa peau. Ça prévoit un peu les guerres.
Non, c'est une prise de conscience de l'Africain.
Par un poète français.
Des poètes. Les poètes avaient pris conscience. Il a voulu, en un seul mouvement, comme vous disiez tout à l'heure, une seule chanson, comme une danse, comme ça,
une danse.
Donner une impression globale de l'Afrique, de sa misère, de son attente, de, comme vous disiez tout à l'heure, c'est sec, c'est brûlé, c'est éternel, ça attend.
Avoir l'image du baobab dans l'esprit, ça aide à comprendre. Le baobab n'est ni gracieux, mais envahissant, énorme. Ça peut aider à comprendre le problème.
Comme le temps.
C'est ça.
Le temps énorme.
Il faut avoir l'image du baobab dans l'esprit.
De siècle.
Le baobab n'est ni gracieux, mais énorme, envahissant.
Il faut des siècles pour faire un baobab. Ouais.
Ou alors l'emprise d'un pouvoir contre lequel on ne peut pas se libérer très facilement. Moi, je pense à la féodalisation qui règne, la hiérarchie tribale et coloniale qui se superpose.
Étendant les mains hors du lit, Plume fut étonné de ne pas rencontrer le mur. Tiens, pensa-t-il, les fourmis l'auront mangé. Et il se rendormit. Peu après, sa femme l'attrapa et le secoua. « Regarde, dit-elle, feignant. Pendant que tu étais occupé à dormir, on nous a volé notre maison. » En effet, un ciel intact s'étendait de tous les côtés. « Bah, la chose est faite, pensa-t-il. » Peu après, un bruit se fit entendre. C'était un train qui arrivait sur eux à toute allure. « De l'air pressé qu'il a, pensa-t-il, il arrivera sûrement avant nous. » Et il se rendormit. Ensuite, le froid le réveilla. Il était tout trempé de sang. Quelques morceaux de sa femme gisaient près de lui. Avec le sang, pensa-t-il, surgissent toujours quantité de désagréments. Si ce train pouvait n'être pas passé, j'en serais fort heureux. Mais puisqu'il est déjà passé. Et il se rendormit. Voyons, disait le juge, comment expliquez-vous que votre femme se soit blessée au point qu'on l'ait trouvée partagée en 8 morceaux, sans que vous, qui étiez à côté, ayez pu faire un geste pour l'en empêcher, sans même vous en être aperçu. Voilà le mystère. Toute l'affaire est là-dedans. Sur ce chemin, je ne peux pas l'aider, pensa Plume. Et il se rendormit. L'exécution aura lieu demain. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter? Excusez-moi, dit-il. Je n'ai pas suivi l'affaire. Et il se rendormit.
Mais qu'est-ce que vous pensez de ce type, Plume?
Il y en a beaucoup.
Un gars un peu fantasque.
Non, c'est...
Non, je crois que c'est français moyen.
C'est tout le monde, c'est monsieur tout le monde.
Il les suivre, hein, il a ses petits soucis, il ne s'occupe pas des autres. Ce qu'il faut, ça suffit.
Moi, je trouve que c'est monsieur tout le monde. C'est vraiment chacun de nous, j'ai l'impression qu'on est tous un petit peu égoïstes.
Bah, oui.
On ne regarde pas
Je ne sais pas quand même si on serait égoïste au point de laisser sa femme couper un morceau à côté de soi.
Mais il avait tellement travaillé.
C'est plutôt un inconscient.
Si ce n'est qu'il y a ces...
un inconscient.
Ces passages où on dit il se rendormit, on pourrait penser à un rêve. Au contraire. Mais voilà, il se rendort.
Plume déjeunait au restaurant quand le maître d'hôtel s'approcha, le regarda sévèrement et lui dit d'une voix basse et mystérieuse: ce que vous avez là dans votre assiette ne figure pas sur la carte. Plume s'excusa aussitôt. Voilà, dit-il, étant pressé, je n'ai pas pris la peine de consulter la carte. J'ai demandé à tout hasard une côtelette, pensant que peut-être il y en avait, ou que sinon on en trouverait aisément dans le voisinage, mais prêt à demander toute autre chose si les côtelettes faisaient défaut. Le garçon, sans se montrer particulièrement étonné, s'éloigna et me la porta peu après. Et voilà. Naturellement, je la paierai, le prix qu'il faudra. C'est un beau morceau, je ne le nie pas. Je le paierai son prix, sans hésiter. Si j'avais su, j'aurais volontiers choisi une autre viande, ou simplement un œuf. De toute façon, maintenant, je n'ai plus très faim. Je vais vous régler immédiatement. Cependant, le maître d'hôtel ne bouge pas. Plume se trouve atrocement gêné. Après quelque temps, relevant les yeux, c'est maintenant le chef de l'établissement qui se trouve devant lui. Plume s'excusa aussitôt. J'ignorais, dit-il, que les côtelettes ne figuraient pas sur la carte. Je ne l'ai pas regardée, parce que j'ai la vue fort basse et que je n'avais pas mon pince-nez sur moi. Et puis, lire me fait toujours un mal atroce. J'ai demandé la première chose qui m'est venue à l'esprit, et plutôt pour amorcer d'autres propositions que par goût personnel. Le garçon, sans doute préoccupé, n'a pas cherché plus loin. Il m'a apporté ça, et moi-même d'ailleurs, tout à fait distrait. Je me suis mis à manger. Enfin, je vais vous payer à vous-même, puisque vous êtes là. Cependant, le chef de l'établissement ne bouge pas. Plume se sent de plus en plus gêné. Comme il lui tend un billet, il voit tout à coup la manche d'un uniforme. C'était un agent de police qui était devant lui.
C'est en somme, s'il se trouvait, à mon avis, s'il se trouvait au restaurant, il a demandé une côtelette, on lui a servi, ben, il n'est pas punissable. À mon avis.
Bien sûr, vous ne voyez pas quelque chose sur la culpabilité. Le type, le maître d'hôtel vient, puis lui dit: ce n'était pas sur la carte, il a un air extrêmement sévère.
Oui, alors, on pourrait croire que le garçon lui a donné ce qu'il n'avait pas le droit de donner.
Oui, on pourrait croire aussi. Il lui dirait...
Il a donné le repas du...
On lui dirait, vous avez mangé la côtelette de votre voisin, c'est pareil.
Oui.
Il peut dire n'importe quoi, et il sent, je ne sais pas si vous l'avez senti à travers ma lecture, que Plume est prêt à se sentir coupable.
Oui. C'est l'éternel de coupable.
C'est le souffre-douleur.
Non, mais je crois que c'est l'attitude que l'on a, par exemple, lorsqu'un agent de police nous interpelle. On est là devant lui, alors automatiquement on se demande qu'est-ce que j'ai donc fait. Et enfin, il y a un sentiment de peur qui apparaît.
Ouais. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, ça vous faisait penser à...
L'éternel coupable.
Ouais.
Et ça ne vous est pas complètement étranger?
Surtout le pouls.
La maison.
Oui.
Est-ce que vous arrivez de vous sentir coupable pour une raison que vous ne comprenez pas? Pour une contravention, il y a des conducteurs ici.
Oui.
Si vous avez une contravention, de quelle façon vous vous sentez coupable?
On n'est jamais coupable, on n'a jamais fait de faute. C'est toujours les autres qui font la faute, jamais nous.
Oui, mais on se défend, on se rebiffe, on dit que lui, là... Il accepte tout. Tout.
C'est pas son cœur, c'est ça.
Oui, tandis que lui, il est, je sais pas, moi, fataliste. Ça vient, puis c'est tout.
T'as résigné, quoi.
Oui, il n'a pas l'air de chercher plus loin. C'est arrivé, ben, prenons-le ainsi, puis c'est tout.
Il a l'air de manquer de caractère.
Ouais.
Non, mais est-ce qu'on pourrait pas voir le symbole là des gens, par exemple, qui.
Ils se laissent pas
par exemple, laissent leurs voisins, d'autres personnes se laisser massacrer dans une guerre, n'importe quoi, qui se réveillent un instant, crient une fois, abat la guerre, et ensuite se rendent de la même façon.
Bah, oui.
Moi, je vois ça de ce sens-là.
Le premier problème.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Le premier, oui.
Le premier poème, c'est pas ça que je dis, non, ça.
C'est pas tout à fait notre cas, quand même.
Vous croyez?
Non.
Ça pourrait mener loin, ces discussions. Si.
Votre voisin est de nuit, supposons. Sa femme crie au secours, vous n'allez pas bouger.
Ah bien bon sûr, c'était un fait tangible que
vous. Oui, c'est ça.
C'était un fait
tangible. Oh non, parce que dans le ménage, on ignore ce qui s'est passé, c'est à eux de se débrouiller. Oh. Et si vous arrivez comme ça m'est arrivé, puis d'attraper une brique là où il fallait, vous n'en avez plus. Vous savez, la paix des ménages, là, ça s'arrange toujours, hein.
Oui, mais j'ai précisé.
Mais quand le mari n'est pas là.
Le mari n'est pas là, la femme est seule, elle crée au secours, vous allez y aller.
Ah oui, ça c'est autre chose, d'accord. Mais si c'est entre mari et femme, ah non.
Non, bien sûr,
mais on est tous un peu, on s'en fout. On voit beaucoup d'enfants là qui sont martyrs, et ils sont privés par les parents et tout. Ben, je vous dis, on en parle au matin à la boucherie ou à la boulangerie, puis après c'est tout. On laisse passer, c'est courant ça. Après, quand on voit ça dans le journal, la peine d'enfant, c'est vrai. Tiens, on l'avait vu, puis on n'a pas porté plainte. On laisse passer.
Et là, vous ne vous sentez pas coupable?
Ben, si, mais c'est l'effet d'un instant, puis après, on l'oublie. On a tellement de soucis soi-même. On se rend dehors. On est comme Plume.
Plume est un peu loin des gens froids du Nord. C'est un peu naïf, c'est un peu charmant. Et le caractère du Nord l'est beaucoup moins. Se sent plus loin. Très loin de ce genre de naïveté de Plume. Il y a de la naïveté dans Plume.
On dirait plutôt qu'il est méridional, il est fatigué par le soleil. Plus de
on la comprend.
Si je le fais pas aujourd'hui, je le fais demain. Et puis si je le fais pas demain, il y a peut-être quelqu'un qui le fera à ma place.
On comprend assez difficilement la naïveté avec notre caractère assez froid, assez sévère. C'est peut-être ça qui nous fait goûter peut-être un peu moins.
Vous avez vu les premiers films de Chaplin?
Oui. Tout le monde, tout
ça ne vous fait pas penser à ça? Le type qui est constamment dépassé par...
Oui, certains comics. Les premiers comics de 1925, oui. Ça représente un peu ça.
En somme, l'homme moderne. Ce Plume, vous pensez qu'il aurait pu exister avant?
Oh, bah, chez les Grecs, peut-être.
Chez les Grecs?
Bah, il existera toujours et de plus en plus, peut-être, oui. Plume. Peut-être de plus en plus.
Il est de tous les temps.
Pourquoi ? Il sera submergé et de plus en plus, nous le sommes. Par un tas d'obstacles, un tas d'impondérables qu'il ne saura pas répondre, qu'il ne saura pas faire face. Et Plume, c'est bien. Comme il est dépassé. Il ne saisit pas la situation présente.
C'est plus palpable dans le second poème, ce que dit monsieur. Cette notion de dépassement. Dans le premier, moi je trouve que c'est l'égoïsme qui prime davantage. C'est une impression. Le deuxième poème fait plus penser à vraiment une notion de dépassement, il est vraiment perdu.
L'histoire de l'homme qui est dépassé dans le présent. Vous dites qu'on le sera de plus en plus, mais je crois qu'on l'a toujours été dépassé par le présent. Par exemple, un contemporain de César ne pouvait pas saisir la portée des actes de César.
Même dans la vie courante, on ne sait jamais ce qu'un acte délibéré ou inconscient va pouvoir avoir comme répercussion sur autrui. Un mot dit à quelqu'un peut avoir une répercussion très grande.
Alors il vaut mieux se taire ?
Pas toujours. Quelquefois.
Rejoignez madame, alors.
Oui.
Quand un agent. Non, puis c'est pas ça, mais sincèrement, le mineur, il a une mentalité à part. C'est vrai, c'est un clan. Vous comprenez? On ne sort pas, c'est un clan, on est enfermé. Ce
qui m'intéresse, moi, personnellement, dans ces trois choses que je vous ai lues, c'est que c'est un saut dans l'imagination complète, dans l'imaginaire. Et que ça, sans doute, dans vos lectures courantes, vous ne l'avez pas.
Non.
Est-ce que ça vous dépayse trop? Est-ce que...
Pas du tout. Surtout les deux derniers chapitres, pas du tout. Non, je sais pas, ça m'a fait penser un moment à Gribouille, il lui arrivait des tas d'histoires comme ça aussi. Non? Un petit peu, hein? Pourtant, c'est une lecture enfantine, hein, Gribouille.
Comme Bécassine.
Oui, comme Bécassine, un petit peu, il lui arrive toutes sortes d'histoires aussi.
Est-ce que vous parlez de tout ça?
Non. Puis c'est un personnage qui est charmant, il est philosophe, il prend la vie du bon côté, il n'a pas de soucis, il est bien.
Oh. De la poésie.
Qu'est-ce qu'ils nous font maintenant ?
On n'en écoute pas assez pour dire d'apprécier.
C'est la première fois que vous en entendez ?
Non, mais très peu, à part la télévision.
Les choses classiques plutôt.
Oui.
Mais... C'est nouveau ici.
Oui. On n'a pas assez l'habitude pour dire d'apprécier
la poésie, le plus.
Moi, je l'entends.
Faut faire très attention, si vous voulez, pour bien saisir le sens. Et nous, les mineurs, nous n'avons pas assez de temps pour dire d'apprécier. On choisit plutôt des lectures divertissantes, quoi, qui ne sont pas trop ardues. C'est pour ça qu'on n'apprécie peut-être pas assez la poésie.
Mais la lecture, vous dites que vous n'avez pas le temps, mais ça n'a pas pris plus de temps pour lire deux pages de pub que lire deux pages d'un livre que vous appelez divertissant.
Oui, mais il faut certainement prêter beaucoup plus
d'attention. Après avoir lu ça.
Oui, il faut réfléchir.
On ne pense pas. Oui.
C'est moi dès
là. On n'a pas à penser après.
Il n'y a pas d'assimilation.
Ce que les gens font souvent, c'est lisent pour lire, pour passer le temps, et non pas pour penser. Et on ne peut pas lire ça sans penser après. Il faudrait s'arrêter à chaque fois, même peut-être au bout de 3-4 lignes, puis essayer de comprendre un peu.
De saisir bien le sens.
Alors que dans certains livres, enfin dans la plupart des livres, des romans qui paraissent, il suffit de lire, ou de temps en temps, on essaie de penser, mais à la fin seulement, après avoir tout lu, et essayer de trouver un sens général. Tandis qu'ici, il faudrait presque penser à chaque terme ou à chaque ligne, de voir exactement qu'a voulu dire l'auteur. Tandis que dans le roman, ce n'est pas le cas. Alors c'est pour ça que, généralement, le mineur, les gens n'aiment pas penser ou n'ont pas l'habitude de penser. Et de penser surtout à des choses non réelles. Or, c'est plus facile aux gens de penser à des choses concrètes qu'à des choses imaginaires qui peuvent être dites dans des poèmes.
C'est pas une question de temps. L'effort intellectuel est beaucoup plus difficile que l'effort manuel. C'est reconnu. Or, après le violent effort manuel que le mineur vient de faire, s'imposer délibérément un effort intellectuel, il faut une certaine dose de courage.
Mais quand on vous les lit, ça ne vous ennuie pas trop ?
Pas du tout. C'est plaisant.
Non, mais il faut se consacrer à ça. Par exemple, prendre ici une heure et ne parler que de poèmes. Et on ne peut pas, chez soi, lire des poèmes. Il y a toujours quelque chose qui vous empêche, soit les enfants, il y a toujours quelque chose qui vous empêche de vous consacrer à temps plein pour lire tout ça.
C'est ce que je disais.
Alors qu'un roman, c'est pas la même chose. C'est pas gênant si vous manquez une ligne, c'est pas gênant, ça arrive à suivre. Mais un poème, c'est pas le cas.
C'est ça. Mais pas une seconde, on vous dit ce qu'il faut lire ou ce qu'il faut pas lire, vous comprenez ? Nous, ce qui nous intéresse beaucoup, alors ce qui nous passionne, c'est vos réflexions sur des poèmes comme ça que vous n'avez jamais lus. Et qui ne seront probablement jamais dans une bibliothèque ici.
Vous ne savez pas dire, il y a un choix très vaste.
Michaud. Même, c'est un tout petit tirage.
Il est encore très très méconnu. D'ailleurs.
Très méconnu même en France. Enfin, même parmi les intellectuels.
D'ailleurs, il est reconnu que les poètes ne sont connus que longtemps après qu'ils aient écrit. C'est fatigant.
Ça, c'est pas tout à fait vrai, parce que vous voyez, un homme
évidemment, on peut parler de Victor Hugo.
Nos jours, un homme comme Aragon, il est très connu.
Oui, d'accord. Mais le truc est de savoir
Victor Hugo, un peu.
Si on lira Aragon ou Michaud dans 100 ans.
Ah. On n'en décidera peut-être pas ce soir.
Quand vous lisez un roman, c'est-à-dire un texte qui a un commencement, un développement et une fin, est-ce que vous n'avez pas le sentiment de lire toujours un peu le même roman ?
Mais ça dépend quelle action il y a. Si vous prenez la série des policiers, la série noire,
ça
commence par un coup
de
téléphone et puis ça finit par un coup de pétard, c'est normal ça. Vous savez déjà ce qui s'est passé dans le livre. Vous avez des très bons livres, je ne me rappelle jamais le nom des auteurs, là, ceux qui se trouvent en bas là-bas.
Schroeder.
Ils sont fameux ces livres-là.
Vous avez trois.
Ouais, mais c'est toujours
un. Bien, vous avez le dernier que j'avais lu, La dynastie du rail, ou tout ce qui s'ensuit. C'est ça. Mais c'est passionnant, ces livres-là.
Disons que Slaughter est peut-être une sorte de roman policier à un niveau supérieur.
Jules Verne aussi.
Oh, c'est trop vieux, ça.
Non, c'est...
Ça vient d'actualité, elle vient de 20 000 lieux sous le
mer. Oui, mais on y vit dans l'actualité. On sait que les fusées existent, alors moi, je trouve que ça ne passe pas tant que... Je sais pas, ça nous... Moi, ça me passionne pas. Je sais que ça existe, alors c'est fini. Il faudrait qu'il arrête autre chose.
Mais vous volez au-dessus du texte, vous ne le lisez pas. Ah, vous liriez ça.
Voilà, c'est ça.
Ce que disait le monsieur. Voilà.
Le poème.
Lisez pour l'histoire.
C'est oui, ça. Ce sont des récits. C'est
le poème.
Non, parce que je me mets souvent à la place du personnage. Quand c'est une histoire de famille comme la dynastie Durail, ça remonte à 3 ou 4 générations, la famille complète. Ben, ils ont des réflexions, des attitudes qui sont dépeintes dans les livres. On se dit, tiens, au fait, si je me trouvais à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que je m'aurais permis certaines choses, ou j'aurais fait ce déplacement, ou j'aurais essayé d'arranger certaines choses? Ça m'arrive souvent. Ça ne veut pas dire uniquement qu'on lit pour s'endormir ou parce que tiens, j'ai un quart d'heure, je vais lire un livre sans savoir ce qu'on a lu. C'est pas la peine de s'abonner à la bibliothèque, prenez le journal ou n'importe quelle revue qui prenne à la maison, c'est suffisant. Non, moi je lis, j'aime bien savoir ce que je lis, j'aime bien me faire des réflexions. D'ailleurs, j'ai même un dictionnaire à côté de moi quand je lis. Pour certains mots ou certaines choses, je n'arrive pas à bien saisir ou à bien comprendre.
Est-ce que vous lisez des livres d'histoire?
Ça m'est arrivé. Il y en a pas mal.
Et les uns?
Moi, oui, beaucoup. L'histoire de la guerre.
L'histoire
contemporaine,
oui, il y en a
beaucoup. Moi, je pense que c'est un phénomène actuel que d'écrire des livres ou d'en lire des livres qui traitent de la guerre.
Et puis c'est une vague qui a remonté, les livres de guerre en ce moment.
Je pense pas que c'est une histoire, c'est plutôt de la petite histoire.
Non, plutôt d'actualité. Parce que 40, on peut considérer que c'est l'actualité, la guerre de 40. Il y a des faits qu'on ignorait complètement. C'est ça qui nous intéresse, ce qui s'est passé il y a 20 ans, 30 ans de cela. Parce que l'histoire des rois, par exemple, pas tellement. Parce que l'histoire, elle change. On écrit ce qu'on veut sur les rois, tout ça. Tandis qu'en ce qui concerne la période plus proche que vous avez vécue, il y a des choses que vous désirez connaître.
Justement.
Est-ce qu'il vous semble qu'il y a des choses qu'on vous a cachées? Oui, des choses qu'on nous a cachées, qu'on s'imaginait autre chose. Puis d'après les auteurs, on connaît
le réel maintenant.
Encore
faut-il
se
méfier. On était trop jeunes pour comprendre toute la portée.
Ah oui, puis après,
on l'a subi, surtout.
La période qu'on peut avoir vécue dans les
événements. Sur la vie générale de Gaulle, je l'ai lu entier. Ça m'a passionné, j'étais curieuse de savoir quel homme c'était, au fond, parce qu'on connaît, on parle du général de Gaulle, on sait pas qui c'est.
Et vous avez eu l'impression de le connaître après?
Ah, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Je me suis dit, tiens, dans le fond, il a... Enfin, je ne pas dans la grande politique, mais certaines attitudes qu'on comprend plus facilement.
Monsieur?
Je disais qu'on peut retrouver des passages de sa vie dans l'histoire de la guerre 40. Des passages vécus.
Oui, quand il était subi par nous autres.
Par exemple, la bataille de la Somme, il y en a dans le coin qui ont fait la bataille de la Somme. Ils se retrouvent un peu. Moi, je n'ai pas fait la bataille de la Somme, mais je m'y trouvais quand ça s'est produit. Et j'ai été surpris en lisant dernièrement un récit de guerre que c'était le général de Gaulle à ce moment-là qui avait bien failli repousser l'armée allemande. On nous avait dit qu'il y avait un officier qui était revenu avec des blindés et il a été détruit par les Stukas. Après, il reprenait la Somme. Des choses qu'on ne savait pas sur le fait.
Voilà, moi je crois que c'est un phénomène naturel. Vous vivez dans cette époque, c'était un machin qui s'est passé. Enfin, actuellement, moi je trouve qu'on y réfléchit moins. Que par exemple, dans 5 ans ou dans 10 ans, quand ça revient en actualité, on approfondit plus. C'est le moment où on y prête moins d'attention. C'est un fait qui est arrivé, ben, la radio en a parlé, la télévision l'a annoncé, les journaux l'ont annoncé, ben vous savez tout. Alors on en discute enfin un peu vaguement, on n'approfondit pas. Et puis quand ça revient au bout de 5 ans ou 10 ans en actualité ou quelqu'un écrit un livre dessus, ben on le lit, je ne sais pas, avec plus d'intérêt, plus de passion.
Il y a l'âge qui fait
également. Oui, je ne sais pas. Nous,
on revient au fait dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'on n'arrive pas à juger.
Ou alors du fait qu'on vit dans l'actualité, on la comprend peut-être moins, et puis quand on y réfléchit après, quelques années après, on l'assimile mieux, je ne sais pas.
Comme quelqu'un qui révise ses leçons.
Peut-être.
Comme quelqu'un, pardon.
Qui révise ses leçons.
C'est possible.
Est-ce que vous lisez des livres sur l'actualité? Des livres sur le Vietnam, sur...
Ah oui, tout ce qui passe ici. Ils sont tout récents, tout nouveaux.
Les femmes comme les hommes, alors, ça.
Enfin, je ne sais pas, moi.
Oui, surtout les hommes.
Oui.
Les hommes d'une trentaine d'années, non, et tout. 25, 30 ans. Donc, les jeunes ne se passionnent pas pour le livre de guerre. Hein. Ou les récits.
D'actualité politique, j'entends.
Oui, oui, oui,
oui.
Les guerres qui sont en train de se faire, oui. Ou est-ce que le journal, ça suffit pour ça?
Ah non, parce qu'il semblerait qu'on ait par le journal ou par la radio, que des informations partielles, alors qu'un livre généralement fait une synthèse d'une histoire ou enfin, d'une époque ou d'un fait précis. Alors, on peut mieux suivre du début jusqu'à la fin. Tandis que le journal, on le loupe une journée, on n'a pas toutes les informations voulues.
Partielle.
On n'arrive pas à suivre. Ouais, et oui. On préfère suivre plus tard dans un livre. C'est vraiment plus facile.
Et puis le thème est beaucoup plus développé, hein, l'histoire est plus complète. Dans le journal, vous avez 10 ou 15 lignes et puis c'est tout.
Quel journal vous lisez ici?
Ici, en principe, il y en a deux, La Voix du Nord et Normatin.
Vous ne lisez pas les journaux de paix?
C'est même pas si. Une fois par semaine, peut-être, non?
Vous avez les quotidiens parisiens, mais ils ne sont pas...
Oui, mais le plus courant, c'est Normatin et La Voix du Nord.
Non, et ceci, à mon avis, c'est beaucoup parce que dans les journaux de Paris, vous ne verrez pas les informations locales qui nous intéressent terriblement.
C'est ce qui nous intéresse le plus, hein, les accidents, les faits divers de la région. En fait, en soi, peu un peu tout le monde se connaît, on connaît tous les environs.
La lecture des journaux de Paris est beaucoup plus ardue, étant donné qu'en général, dans ces journaux-là, on analyse les situations, on ne donne pas des faits bruts. Alors là, je crois qu'il y a, si je pense par exemple au Monde.
Oui,
mais il y a deux parties, une information et une autre analyse.
Je ne rejoins pas votre jugement, parce qu'on a, par exemple, il y a notre quotidien La Voix du Nord, où vous avez des journalistes qui sont... Il faut les lire. Parce que bien sûr, si vous prenez les informations régionales, il est évident que ça ne rejoindra pas le point de vue d'un journaliste parisien quand on parlera d'un problème de la région du Nord. Mais lorsqu'on parlera de politique générale ou de problèmes actuels, les journalistes du Nord, moi, j'ai plaisir à les lire.
Pourquoi? Parce qu'en général, les journalistes parisiens, quand on lit quelque chose, on dit bon, ils sont pas dans le coup, ils n'ont pas compris.
Ah oui, quand c'est quelque chose qui nous intéresse personnellement. Mais quand vous avez des faits généraux, je pense qu'on a autant de plaisir et autant de facilité à lire un journal parisien qu'à lire un journal de la région du Nord.
Devant des faits comme la guerre du Vietnam, la menace de guerre de Nasser, il n'y a pas de journaliste de province ou de journaliste de Paris. Les informations sont les mêmes.
Oui.
C'est moi que l'information est plus poussée ou non. Quand vous choisissez un livre, vous venez ici dans une bibliothèque, vous choisissez un livre. Comment faites-vous? Qu'est-ce qui vous importe? Le titre? Est-ce que vous suivez les auteurs? Est-ce que vous suivez l'histoire qu'on vous raconte
l'auteur, l'auteur du livre? On connaît déjà un petit peu ses auteurs aussi. Hein. Alors moi, il y a pour ainsi dire trois choses. L'auteur, la grosseur du livre et puis la finesse de l'écriture. Puis il y a un livre et je suis passionnée.
C'est le volume de lecture.
Ah oui. Et puis d'ailleurs, monsieur le sait, quand je ne peux pas venir, j'envoie ma fille, mes livres sont prêts.
Mais souvent, vous ne connaissez pas le nom de l'auteur?
En principe, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve ici. Hein,
on les connaît aussi par...
C'est-à-dire qu'on...
Oui, mais tu pour tous, et puis dans les journaux, ça en parle un peu. Hein.
Mais quand vous ne connaissez pas l'auteur du tout?
Ah, je n'hésite pas, je le prends tout de même.
Il y a un résumé souvent, derrière le livre.
Je verrai bien, s'il me plaît, je continuerai la série, si ça ne me plaît pas, j'abandonnerai.
C'est une façon de connaître.
Et puis on a notre...
J'aime bien, je ne suis pas fixée sur un auteur, vous savez, parce que j'ai lu par exemple 3 ou 4 livres de lui qui m'ont passionné, qui m'ont plu, que je vais continuer toute la série, pourquoi pas.
Il m'est arrivé de prendre certains bouquins sur conseil du bibliothécaire qui m'a dit je crois que ça entre dans tes vues ou dans tes goûts. Il me connaît un petit peu et il sait que j'aime tel genre d'auteur. Et je n'ai jamais été déçu. Évidemment, on n'a pas fouillé toute la bibliothèque parce que c'est le temps qui nous manque.
Je voudrais savoir si le bibliothécaire les lit.
Non. C'est pas possible de pouvoir lire.
Parce qu'il m'a toujours tellement bien conseillé, je me suis toujours demandé, j'ai jamais osé demander s'il les lisait avant.
Non, je me documente, bien sûr, je vois le résumé du livre, je vois si ça peut intéresser tous les lecteurs.
Qui les paye les livres?
C'est acheté avec le produit de location.
Uniquement?
Ici, oui, j'ai une clientèle assez forte, c'est ce qui me permet d'acheter environ 50 à 60 000 francs de anciens francs. Le livre, tous les deux mois à peu près. Et pourtant, la location est modique, elle est de 20 francs par livre.
Et encore, vous aviez débuté avec 10 francs.
Mais je sors par soirée en moyenne 150 livres. Dans les mois d'hiver, 200.
Par soirée?
Par soirée, oui. Il y a deux soirées par semaine. C'est une bibliothèque qui marche très bien. D'ailleurs, c'est à elle seule, ici le 21, font tout ce que les autres bibliothèques du groupe. Je fais autant que...
Les bibliothèques d'ailleurs.
Hein, à quoi ça tient alors que vous seul, vous fassiez autant que les autres groupes?
Ben, je ne sais pas.
La variété
il y a eu
choix,
un départ
crois,
assez rapide, oui, et après il y a eu la variété des, du choix. Puis alors, je vous dis, comment on fait un achat assez conséquent de livres, hein, ça permet aux gens de.
De c'est ce qui nous manquait,
pouvoir choisir ce qui
leur plaît. C'est uniquement pour le 21 ici ou bien
c'est uniquement pour, le 20, pour la ville d'Arles, oui, 21, la ville d'Arles. Des gens de, d'années qui viennent un peu de Boisson, qui sont limitrophes à Arles.
Et les jeunes
et il y a quelques jeunes, oui.
Pas beaucoup. Moins que les autres.
Les jeunes.
De 20 ans, 22 ans.
Oui, vous en avez un témoin. Il y avait un lecteur assidu.
Il fait son droit.
Oui, spécial. Oui, mais il y en a quelques-uns. Les fils de mineurs. Ils ne sont pas mineurs, proprement dit.
Je vais lire un poème encore. Ça s'appelle Cette nation civilisée.
Un poète japonais qui s'appelle Kondo Azuma.
Oui, attendez.
C'est sur la bombe d'Hiroshima. Hein. Ce mois-là, ce jour-là, sur cet atoll de Bikini, qu'est-il advenu? Je l'ignore. Je sais bien que quelque chose a eu lieu. Je sais que sont venus, à cause de cela, des cendres et de la pluie radioactive. Que des pêcheurs aussi ont perdu leurs globules sanguins. Et je sais qu'à cause de cela encore, il n'y a point pour eux d'espoir de guérison. Je sais que le courant noir qui passe nuit à l'humanité. Je connais le nom de cette nation civilisée qui le créa. Ce qui est survenu sur cet atoll de Bikini, je l'ignore. Que cela ait privé de leur commerce les pêcheurs. Que cela ait privé de leur baignade les enfants. Que cela ait supprimé poissons, légumes et eau de nos tables. Tout cela, je le sais. Que ceux qui en souffrirent ne furent pas ceux de cette nation civilisée, ni leurs enfants, je le sais. Ce qui s'est passé sur cet atoll de Bikini, je l'ignore. Toutefois, je sais qu'il y est survenu quelque chose. Je sais que finalement, cela privera de la vie ceux qui désirent la paix, réalisée par elle. Elle a été calmement indifférente, comme si de rien n'était. Je connais le nom de cette nation civilisée.
C'est une plainte, à mon avis.
Dans le cas
contre le progrès, contre la guerre, la bombe atomique.
Contre la bombe atomique.
Contre la nation qui l'a employée, ce poème.
C'est une constatation. Quand
c'est plutôt un réquisitoire.
Oui, la différence qu'il y a entre ce genre, cette poésie, qui est d'ailleurs belle, et l'autre.
Oui.
Qu'est-ce que vous préférez?
Celle-ci, j'ai l'impression que c'est plus une constatation d'un état de fait, en fait.
Moi, je trouve qu'elle est crue, elle est nue. Elle est réelle, ça rentre dans le vif du sujet. Tandis que l'autre, elle est plus imagée, elle est plus douce, elle est plus coulante, je ne sais pas comment dire ça.
C'est presque un reportage du gars qui a vu et qui a constaté, alors que les autres poèmes sont des imaginations, disons, des réflexions. Non réel, alors que là, c'est la réalité pure.
Ça fait flash.
Alors, on pourrait trouver ça sous une autre forme, dans un journal, et ça paraîtrait pas fait idiot, que ça se trouve là. Tandis qu'un poème, disons, paraître comme information, ça ne serait pas la même chose. Dès que ce poème-là pourrait paraître comme une information.
Oui, mais ce n'est pas une information.
Non, mais justement.
C'est une information sous une forme poétique.
D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu être lu de cette façon-là.
Vous trouvez que c'est une forme efficace?
Que le compte-rendu sec d'un journal est plus efficace?
Oui, moi je préfère les autres. J'aimerais pas, je sais pas.
Enfin, je ne pense pas que.
Moi, mon idée, il paraîtrait dans une page de journal présentée en poème comme il est là, on ne ferait même pas attention que c'est un poème. Il faudrait peut-être qu'il soit classé, aligné pour s'en rendre compte. Autrement, oui.
Oui, mais à l'entendre, on ne dirait pas que c'est un poème.
Il y a aussi une chose, c'est qu'évidemment, on a affaire à un poème japonais.
Oui,
et alors là,
oui.
On est dans
oui,
une
et puis c'est drôle parce qu'ils ont un langage fleuri, très, très beau.
Ils en sortent un peu maintenant.
Oui, ça n'a aucun rapport, mais vous ne pourriez pas croire que c'est japonais. Ben, je sais pas, mais pour la moindre des choses, ils sont là avec des comparaisons de fleurs, de d'animaux, ouais,
pour,
de quelque chose d'oiseau. Et puis là, c'est tellement sec, c'est
brutal. Pour exprimer la douleur,
il n'y a pas de
fleurs.
Je vais lire 20 lignes d'un très grand écrivain américain. Je ne sais pas si vous en avez lu. Melville. Herman Melville. Il a fait un livre sur la chasse à la baleine qui s'appelle Moby Dick.
Ah oui.
Et qui est un très grand chef-d'œuvre. D'un type qui a vécu entre
1850, je crois.
Il a paru en feuilleton. Il est mort en 90. Il a lu. Pardon.
Oui. Il a paru en feuilleton.
Il a paru en feuilleton. Seulement en feuilleton, il vous coupe les grands, le grand style.
Ah oui.
Alors voilà, c'est une littérature qui a un siècle, celle-là. Le livre a paru en 1840. En digest, c'est devenu un livre de 100 pages.
Ça oui, fait 100 livraisons de journal, quoi. 50, peut-être.
100 pages, c'est-à-dire qu'il ne restait que ça. Le livre en a...
plus de 500.
550. Mm-hmm. J'avais un homme, mon fils a maintenant 19 ans, il l'a lu à 14 ans. J'ai d'ailleurs beaucoup rigolé. Il a lu le cinquième du livre, pour le livre. Il a cru qu'il avait lu Moby Dick.
Oui, il existe ici, en, comme vous dites. En,
c'est-à-dire que de ce livre, qui est la littérature, on avait extrait l'histoire.
Oui, c'est ça.
La seule histoire.
C'est un condensé.
Oui, en sacant tout le style. Comme Robinson Crusoe, comme Don Quichotte.
Ça fait penser, excusez-moi.
Concentrer de Thomas, plutôt que de Thomas
d'entier. Voilà ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, où on publie les œuvres célèbres, d'écrivains célèbres en digest,
ouais.
Sous prétexte de donner un peu de culture à l'américain moyen.
Voilà. Et en France aussi.
Ou ça apparaît avec, je sais, il y a une série qui existe.
Ça vous paraît honnête?
Non.
Vis-à-vis de l'écrivain et vis-à-vis des lecteurs?
Vis-à-vis des lecteurs.
Pire, vis-à-vis des lecteurs.
Ça pourrait se discuter parce que quelqu'un qui n'aime pas une grande, grande lecture, un petit livre, il peut parfois le lire et ça peut le passionner pour lire au plus loin cet auteur ou quelque chose.
Puisqu'il aura cru avoir lu le livre, pourquoi le regarder?
Ben oui, mais ça ne veut... mais en principe, un auteur n'écrit pas simplement un livre. Mais ça peut lui donner l'idée de rentrer dans une librairie et demander l'auteur et le libraire justement à un gros livre de ce monsieur, de cet auteur, de lui présenter un gros livre. Du fait que le petit livre lui a plu, il peut acheter peut-être le gros livre.
Ici, c'est une question à l'écrivain. L'écrivain ne peut-il pas protester quand on condense ses œuvres?
90, il est même dans le domaine public.
Mais un écrivain vivant.
Il est passé 50 ans, je crois, non?
Pas, on sait bien.
Ça, moi, c'est malhonnête vis-à-vis de l'écrivain, tout d'abord.
Mais surtout, ça détruit l'œuvre littéraire.
Oui.
Oui, puis d'un autre côté, ça, je sais pas, ça excite peut-être les gens à lire aussi.
Alors, je vais vous lire ça, c'est la mort d'une baleine. On a lancé, comment ça s'appelle, les harpons, n'est-ce pas? Et elle est en train de mourir dans l'océan Indien. Une rouge marée se répandait maintenant tout autour de la bête, comme des ruisseaux le long d'une colline. Son corps torturé ne roulait plus dans l'eau salée, mais dans du sang. Du sang qui, pendant des brasses, bouillonnait dans le sillage de la baleinière. Un soleil oblique jouait sur cet étang cramoisi et se reflétait sur chaque visage, de sorte que, les uns pour les autres, les matelots flamboyaient comme des peaux rouges. Et sans répit, jet après jet, une vapeur blanche fusait par les évents de l'animal à l'agonie. Après bouffée véhémente, la pipe du second surexcité se consumait. Et la baleinière se rangea le long des flancs du monstre. Penché le plus possible sur l'avant, Stubb, c'est le nom du harponneur, enfonça en vrille sa longue lance, bien aiguisée, dans le corps de la bête, et la tint là, taraudant avec soin, comme s'il cherchait précautionneusement quelque montre d'or que la baleine eût pu avaler, et comme s'il avait eu peur de la briser avant de l'en sortir. Mais cette montre en or était la vie secrète de l'animal. Elle fut atteinte, car, sortant de sa léthargie pour entrer dans cette chose inexprimable, qu'on appelle sa Flurry. L'horrible monstre se vautra dans son propre sang et couvrit ses dernières convulsions d'un embrun impénétrable, de sorte que la baleinière en danger dut faire marche arrière avec de grandes difficultés afin de sortir de cette pénombre fantastique et de retrouver la clarté du jour. Sa Flurry, oui, je crois que c'est le liquide qu'elle a en elle. Sa Flurry s'épuisant, elle réapparut une fois encore à la vue des autres, se secouant de part et d'autre, dilatant et contractant spasmodiquement ses évents avec une sorte de râle saccadé. Finalement, des flots de sang caillé comme la lie pourpre d'un vin rouge jaillirent dans l'air plein d'épouvante, puis retombèrent et dégouttèrent dans la mer le long de ses flancs immobiles. Son cœur avait éclaté. Il s'agit donc d'une description pure et simple.
On croirait y être. C'est très précis.
Il y a une certaine exagération, je crois, typiquement américaine. Par exemple, une succession d'images, des images qu'on retrouve dans Steinbeck, par exemple, dans d'autres écrivains américains. On va dire ça. Une sorte d'exagération du fait quand il parle de collines, de... C'est pas quelque chose de...
Oui, enfin, on est en plein romantisme, là.
Oui, c'est ça, c'est du romantisme.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Romantisme, non, mais c'est la réalité, on croit y être. En lisant
le sens,
on y est.
D'accord sur la description, vous voulez dire?
Sur ce style. C'est-à-dire très imagé, avec des métaphores, avec des grandes images, les plans de la baleine sont comparés à des plans de collines.
La montre d'or.
La montre d'or pour le cœur. Ça passe pour être du très grand style, moi personnellement je trouve que c'est du très grand style, mais enfin, il n'est plus de nos jours.
C'est un peu homérique, non?
Un peu?
Homérique, quand on pense aux descriptions de Homère.
Mais dans un roman, qu'est-ce qu'on demande? On demande à s'évader de la réalité. Moi, quand j'ai un roman, j'aime bien le vivre, là.
Oui.
Et est-ce que là, vous le vivez?
Oui. On croit y être dans cette description, dans cette mer démontée, la baleine, le sang tout partout.
Mais ces images accumulées ne vous gênent pas?
Non.
Je veux dire, ne gênent pas l'histoire elle-même?
Non, non. Parce que ça situe l'histoire.
Ça reste vivant.
Toute cette quantité d'images pour décrire une seule scène, à notre époque, ça peut paraître beaucoup. À notre époque. Je suis encore assez jeune.
Mais c'est parce qu'on est habitué beaucoup à lire des petits livres, des condensés, tout ça. On veut arriver tout de suite à la fin de l'histoire. Mais on ne vit pas en ce moment cette histoire.
Puis c'est pas ça, mais même les choses courantes dans la vie, je sais pas, en ce moment, c'est bref, c'est vite, c'est saccadé, c'est toujours se dépêcher.
Enfin, voir cette scène-là.
Au cinéma,
par exemple. Au cinéma, au télévision, ça frapperait encore plus, je pense, que par la lecture.
Ça dépend pour qui, mais je le disais quand nous sommes rentrés là. Un livre, moi, quand je lis une histoire qui m'a passionnée, ben, 10 ou 20 ans après, je vais relire une ligne ou quelqu'un va m'en parler, ben, toute l'histoire me revient dans la tête. J'ai la télévision, ça fait 15 ans que je l'ai. Ben, il m'arrive de voir un film et une année, même pas, peut-être 8 mois après, il repasse, ben, j'ai oublié la moitié de l'histoire, ça ne m'intéresse pas, je la regarde pour passer le temps.
Mais si vous repensez à ce que je viens de lire là, qu'est-ce qui vous frappe le plus? Le fait lui-même qui est raconté?
C'est grand, c'est énorme. Oui, moi, la première impression, ça m'a fait, je sais pas, on aurait dit qu'il ça a éclaté dans l'écran, vous savez, ça esclaboussait tout, quoi, c'était énorme. C'est gigantesque, la façon dont il a décrit. Je sais pas, mais moi, mon point de vue à moi.
C'est très image.
Et une grande sensibilité avec ça tout de même. Hein. On dirait qu'il sentait vivre la baleine là au bout de son harpon tout de même. Je sais pas, moi.
Et quelle image?
Cette rouge mare, tout au début, cette marée rouge qui s'est allée autour du combat. C'est une image frappante quand on le voit au nord.
C'est la bataille.
Et moi, je pense que l'image la moins habituelle est l'image du harpon. Qui vrille dans la baie.
La montre d'or.
mais pour atteindre le cœur. Et ouais, je pense que c'est une image qui n'est pas habituelle. Enfin, des marées rouges, des collines ensanglantées, c'est assez connu, mais enfin, prendre la vie avec un harpon de cette manière, en perçant un trou, ce n'est pas habituel. Enfin, du moins, mais comme image. Et ça ne pourrait plus être rendu en tant qu'image réelle sur un écran. Ça ne pourrait pas être rendu de la même manière. L'avantage que présente le livre pour certaines images, alors que d'autres passent très bien à l'écran, cette image-là ne pourrait pas passer.
Vous dites un peu le contraire, après avoir réfléchi de ce que vous avez dit tout à l'heure.
Pour certaines images, oui. Mais d'autres...
Que l'image lue et construite, reconstruite par vous, parle finalement plus à votre imagination qu'une image donnée, vue sur un écran.
Non, je crois qu'il veut dire aussi que la musique du langage ne veut pas être
rendue. Oui, c'est tout, enfin, tout l'ensemble fait l'image, la manière de le dire qui ne peut pas être rendue. Alors que certaines images dans ce texte-là peuvent être rendues à la télévision, mais que d'autres ne peuvent pas l'être. Enfin, sur un écran.
La beauté de ça, par exemple, une rouge marée se répandait maintenant tout autour de la bête, comme des ruisseaux le long d'une colline.
Mais c'est l'amplitude de ces images qui font ressortir nettement le texte.
Il peut avoir une énorme baleine sur l'écran et du
c'est pas possible de représenter ça.
On n'aurait pas la musique du langage.
D'ailleurs, souvent, on est déçu. On a lu un roman, et ensuite on va au cinéma, on est déçu par le film.
Non, mais de toute façon, ce n'est plus le même but. Il y a souvent un but commercial pour un film, alors que pour le roman, quand l'auteur écrit son roman, c'est rare qu'il pense au but commercial. Du moins, à cette époque-là, je ne pense pas que les gens pensaient surtout au but commercial, ce qui n'est peut-être pas le cas actuellement. Alors, ils pouvaient, se permettre d'écrire peut-être des choses de ce genre-là qui ne sont plus faites actuellement. C'est rare de trouver actuellement des récits imagé de ce genre-là.
Mais là, nous sommes en plein dans le problème du style. Est-ce que ça compte beaucoup pour vous ou pas tellement? Si un livre est bien écrit de cette façon-là, donc...
Bien sûr, ça m'arrive de relire deux, trois fois le même livre quand ça m'oublie. Pourquoi pas? Justement, et c'est toujours aussi passionnant.
On peut revenir à un auteur qu'on ne connaissait pas, qu'on a découvert pour son style. Pour son style uniquement. Alors que l'histoire nous a peut-être déçus, mais le style nous a plu, on y revient. On verra peut-être pas quantité de fois, mais on peut y revenir plusieurs fois pour le style. Ça plaît. Alors que l'histoire peut nous avoir déçus.
L'histoire peut être banale si elle est bien dite. Vous aimez Zola ?
Oui. Oui, il est direct, il est franc.
Oui, c'est un style direct. Et justement, que le mineur comprend bien, c'est ça qui a surtout.
Ah oui ?
Oui, c'est un style direct, enfin, je crois, que.
Ah oui ?
Qui suit facilement, quoi, qu'on assimile bien.
Le mineur qui lit Germinal.
Oui, voilà, c'est.
Il est en plein dans son élément.
On ne pense pas que Zola ait connu la vie des gens, des mineurs.
Le seul parallèle qu'on peut établir, c'est le charbon. Quant au reste,
un peu la
vie. Rien
oui, parce que les mœurs, je pense qu'il les a pris un peu à la légère.
Ce sont des mœurs qu'on rencontre dans n'importe quelle coopération.
On a abaissé, il a baissé le peuple, quoi, vraiment.
Enfin,
il a baissé, il le comprenait, si vous voulez. Le peuple était tellement peu émancipé. Mais je pense qu'il a grossi quand même
les choses.
Il faut considérer aussi, je crois, que Zola, dans son œuvre, a écrit un réquisitoire contre la société de son temps, contre la société napoléonienne d'abord. Et ensuite, contre la société bourgeoise de son époque, en montrant les misères du peuple.
Oui, et en les voyant à travers une loupe.
Une loupe, oui.
Vous dites qu'il exagérait.
Oui.
Dans Germinal, surtout.
Peut-être par un problème, une situation que vous connaissez, mais est-ce que vous pensez que, tel que vous la connaissez, c'est pas très différent de ce que c'était il y a 100 ans?
Si, ça peut être différent, évidemment, ça peut être différent. Mais je pense
c'était différent de la façon dont on vivait il y a 100 ans d'ici. On ne peut pas s'imaginer, on n'était pas surpris.
Enfin, je n'ai pas en tête certains passages de ces œuvres, mais je sais que je me suis fait la réflexion en lisant. Je me demandais toujours si c'était possible.
Les affaires certaines, c'est que les femmes descendaient au fond
Oui, c'est encore une vérité, là.
Oui,
c'est pas tellement vieux, les femmes qui travaillent.
Par exemple, les mœurs, je trouve que c'est peut-être...
Oui, mais ça dans un panier.
Il ramenait le petit courrier à la bête.
Il est sombre, il ne trouvait rien de beau dans l'homme. Il ne trouvait rien de beau dans l'homme, Zola. Il est sombre. Alors qu'il n'y a pas de choses sombres dans l'homme.
D'après ce que m'ont raconté mes grands-parents qui sont venus ici dans la région vers 1925, d'après ce que je me souviens de ce qu'ils m'ont raconté, de la situation qui existait à cette époque, en essayant d'extrapoler sur ce qui devait exister encore 60 ans auparavant, je me dis que Zola n'a pas menti et que la vie devait être telle qu'il l'a décrite. Je ne pense qu'en aucune façon Zola ait essayé d'exagérer. Alors, quelques buts que ce soit.
Il a trop accentué les bassesses, c'est
oui,
ça.
Oui.
Bien sûr, ça existe.
Il
ça
a mis l'accent un peu.
Ça existe partout, ça.
Oui.
À aucun moment dans ses œuvres, il ne ressort le beau côté de l'homme. Et il y a 100 ans, comme il y en a 200, il y avait de beaux côtés, chez nous comme ailleurs. Et il ne les ressort pas assez. Encore de nos jours, il y a des situations qu'on pourrait monter en épingle, très sombres, très noires.
Il y a plusieurs façons.
Il y en a bien d'autres qui sont très belles.
Qu'est-ce qui vous fait lire Germinal, c'est...
On essayait d'y retrouver un monde qu'on connaît.
Qui est quand même très dépassé.
Oui,
c'est sûr.
Quelqu'un qui écrirait aujourd'hui un livre sur vos problèmes à vous, ce serait quand même. L'intérêt serait un peu différent.
L'intérêt serait différent, à la condition qu'il ne. Il ne la dépeint pas de la façon
dont il la voit,
si morbide qu'il la voyait.
Balzac, qu'est-ce que vous dites?
Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu, mais...
Sartre.
Oui, j'ai vu, mais enfin, je pense que c'est classique.
Je ne crois pas Sartre, j'ai gardé quelques-uns.
Une petite obligation, on même pas donné.
Aragon.
Si on cherche à interroger des mineurs,
moi, je ne suis pas tellement demandé, mais...
Moi, c'est bon.
Et Victor Hugo.
Ça a déjà tellement été lu que...
Oui.
Non, je ne sais pas. Sur les classiques, ça nous ramène plus à l'école.
Avez-vous déjà essayé de lire Notre-Dame de Paris, monsieur?
Donc c'est fini.
Ah, oui,
oui, Notre-Dame de Paris, peut-être des grands...
Les Misérables, ça n'a pas été lu.
Ah, si. Dans la jeunesse.
Oui.
C'est ça.
Dans la jeunesse.
C'est fini maintenant. Finalement, je crois que c'est un tort qu'on a. C'est un livre qu'on devrait lire maintenant, non?
Alors, Les Misérables, je crois qu'on peut le relire, là, justement, même quand on en connaît l'histoire par cœur, et Dieu sait si on la connaît par cœur. Mais pour le style, alors.
Non, il n'y a pas un fait curieux, c'est que précisément cette lecture qui crée des images, par exemple la lecture de la mort de cette baleine, qui fait que le lecteur crée les images. Si on voit la même chose en bande dessinée, au cinéma ou à la télévision, où les images sont fixées,
ça ne rend pas.
Mais ça nous empêche de lire. Ça nous empêche, nous, de former les images personnellement.
Peut-être, quand on lit un livre de ce genre-là, c'est... Je sais pas, du moins pour moi c'est automatique. Je lis et je vois le cinéma qui défile, vous savez. Mais... Tandis qu'en bande dessinée, ça ne bouge pas, ça ne rend pas.
Et votre cinéma à vous quoi.
Oui, à mon idée. Je l'arrange à mon idée. Je le vois tel que. Je sais pas.
Et alors si on vous montre le cinéma d'un autre, vous le reconnaîtrez.
Ah non,
vous
serez pas contente. Non, peut-être pas, qui sait.
Et ce qui est important, c'est de continuer à lire pour continuer à former les images, je crois, plutôt qu'absorber les images que d'autres font. Car à la langue, on ne se forme, il n'y a plus d'imagination possible.
Oui, c'est passionnant, je ne sais pas, parce qu'on se dit, tiens, il va lui arriver telle chose, ou il va se passer telle chose, et puis au fait, non, ça s'est passé autrement, alors on est déçu, ou on est content, ou... on se parle à soi-même, on se parle à son livre, moi je ne sais pas.
Mais les bandes dessinées, c'est un commencement, la lecture. Tout le monde a commencé par cela. Moi-même, j'ai commencé par les bandes dessinées, après les petits feuilletons, tout ça, et maintenant, c'est des romans que je cherche.
C'était quand même beaucoup de temps, enfin. C'est ce qu'a 18 ans, c'est-à-dire que les jeunes passent beaucoup de temps à lire les bandes dessinées, pas autre chose.
Et parfois on s'arrête là.
Oui, s'il s'arrête là, c'est grave.
Vous avez abordé ça déjà?
Par
exemple. Qui parle à la raison, des livres politiques par exemple.
Pour vous maintenir dans le droit chemin?
Non, des livres qui font alors vraiment réfléchir pour faire réfléchir.
Non, pas la politique.
Non,
mon compte personnel,
c'est
non.
C'est difficile et ça donne trop de soucis.
Oui, parce que la politique, c'est tellement changeant. Ouais. Ça dépend de l'auteur qui l'a écrit.
Il faut être passionné pour ces livres-là. Suivre sans arrêt, sans du moins, je crois. Hein, c'est pas...
Ben, je veux dire, parce qu'il y a, dans ces livres-là des classiques, comme il y a des classiques dans le domaine du roman, hein, dans tous les domaines. voulez qu'on vous lise une page, par exemple, pour voir l'effet que ça fera?
Oui.
C'est d'un poète noir, qui est député de la Martinique, qui s'appelle Aimé Césaire, qui est encore vivant. Non. Qui a fait plusieurs livres, Les armes miraculeuses, en particulier, et une pièce de théâtre qui s'est donnée au Théâtre de France, qui s'appelle Le Roi Christophe.
Le Roi Christophe, tragédie du Roi Christophe.
Des valeurs inventées jadis par la bourgeoisie et qu'elle lança à travers le monde, l'une est celle de l'homme et de l'humanisme, l'autre est celle de la nation. C'est un fait. La nation est un phénomène bourgeois. Mais précisément, si je détourne les yeux de l'homme pour regarder les nations, je constate qu'ici encore, le péril est grand. Que l'entreprise coloniale est au monde moderne ce que l'impérialisme romain fut au monde antique. Préparation du désastre et fourrier de la catastrophe. Et quoi? Les Indiens massacrés? Le monde musulman vidé de lui-même? Le monde chinois pendant un bon siècle souillé et dénaturé? Le monde nègre disqualifié? D'immenses voix à tout jamais éteintes? Des foyers dispersés au vent? Tout ce bousillage, tout ce gaspillage, l'humanité réduite au monologue, et vous croyez que tout cela ne se paie pas? La vérité est que dans cette politique, la perte de l'Europe elle-même est inscrite, en italique. Et que l'Europe, si elle n'y prend pas garde, périra du vide qu'elle a fait naître autour d'elle. On a cru n'abattre que des Indiens, ou des Hindous, ou des Océaniens, ou des Africains. On a en fait renversé les uns après les autres, les remparts en deçà desquels la civilisation européenne pouvait se développer librement. Vous voulez que je continue un peu ? Je sais tout ce qu'il y a de fallacieux dans les parallèles historiques, dans celui que je vais esquisser notamment. Cependant, que l'on me permette ici de recopier une page d'Edgar Quinet pour la part non négligeable de vérité qu'elle contient et qui mérite d'être méditée. La voici. On demande pourquoi la barbarie a débouché d'un seul coup dans la civilisation antique. Je crois pouvoir le dire. Il est étonnant qu'une cause si simple ne frappe pas tous les yeux. Le système de la civilisation antique se composait d'un certain nombre de nationalités, de patries, qui, bien qu'elles semblassent ennemies ou même qu'elles s'ignorassent, se protégeaient, se soutenaient, se gardaient l'une l'autre. Quand l'Empire romain, en grandissant, entreprit de conquérir et de détruire ses corps de nations, les sophistes éblouis crurent voir au bout de ce chemin l'humanité triomphante dans Rome. On parla de l'unité de l'esprit humain. Ce ne fut qu'un rêve. Il se trouva que ces nationalités étaient autant de boulevards qui protégeaient Rome elle-même. Lors donc que Rome, dans cette prétendue marche triomphale vers la civilisation unique, eut détruit l'une après l'autre Carthage, l'Égypte, la Grèce, la Judée, la Perse, la Dacie, les Gaules, il arriva qu'elle avait dévoré elle-même les digues qui la protégeaient contre l'océan humain sous lequel elle devait périr.
Fin de citation. C'était le dernier passage est une citation d'une page de Pierre Quinet.
Oui, mais le livre.
Oh, le livre, c'est le discours sur le colonialisme.
Oui, mais c'est toujours actuel, ça.
Qui est apparu en 1900, réédité en 55.
Plus que jamais d'actualité.
Ça a toujours été.
Moi, j'aime pas sa façon d'écrire. Moi, j'aime pas sa façon d'écrire.
Non.
On dirait qu'il est là avec un bâton puis qu'il menace le monde, là, je sais pas.
Peut-être
si
pas
vous ne suivez pas, ça n'ira pas comme ça, je sais pas, il a une façon de... J'aimerais pas, non?
Ça fait penser un peu à Marx dans son manifeste.
Oui, il a son idée ancrée, tout le monde devrait le suivre.
Je sais.
Bon, j'aime pas sa façon.
Je ne suis pas du tout à fait d'accord avec ses idées, par exemple. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été le plus utile pour l'élaboration de la culture française telle que nous la connaissons actuellement, la culture gauloise ou alors la culture romaine. Il parle là des conquêtes que les Romains ont faites. Il parle par exemple de la Dacie. C'est
par analogie.
Oui, oui, d'accord. La Dacie, par exemple, peut-être n'était qu'une vaste plaine, enfin c'est la Roumanie, je crois, peuplée de tribus nomades.
La Gaule était en pleine guerre civile lorsque César y a pénétré. La Judée était en pleine déliquescence. Il existait trois royaumes en Palestine.
C'était une raison pour envahir un pays.
Bon, oui, mais...
Il n'y a jamais eu un consensus aussi fort entre un peuple colonisé et un peuple colonisateur dans entre Gaule, la Gaule et Rome. Je ne sais pas si vous savez que la Gaule a donné plusieurs empereurs à Rome. Elle leur a donné ses sénateurs.
C'est ce qui a perdu Rome, peut-être.
Oui.
Justement.
Je ne pense pas, étant donné que les légions romaines étaient formées de Gaulois ou d'autres peuples.
Oui.
En fait, c'est un texte ancré sur notre monde actuel, d'aujourd'hui.
C'est un texte sur le pouvoir, à mon avis. Il peut s'appliquer de personne, enfin, je veux dire, de
aussi bien aux nations qu'à des violements, à chaque individu.
Sur un être, un potentat, par exemple, en fait. Vous le détruisez par votre pouvoir et vous vous détruisez vous-même. Par l'exercice du pouvoir. Vous pouvez ne pas être d'accord. Enfin, c'est ce que dit Césaire. Si vous croyez que le pouvoir, l'exercice du pouvoir augmente la personnalité de quelqu'un.
Non, pas du tout, je ne parle pas de ça, mais enfin, je pense que lorsque quelqu'un prend le pouvoir, c'est qu'il n'y avait personne d'autre, aucune autre entité, capable de le prendre, ce pouvoir, et de l'assumer.
Vous parlez en termes de fatalité, là.
Oui.
C'est non, pas bien.
Pas tout à fait.
Vous trouvez que le général grec, M. Patakès, est venu parce qu'il était indispensable.
Non, pas parce qu'il était indispensable, mais parce que... Non, je suppose que sa solution peut paraître excellente sur le moment. Comment dire ça?
C'est même pas pour le peuple grec.
Non, enfin... Moi, qui sait? On ne peut pas juger les événements actuels. Là.
On ne mettrait pas 6000 personnes en tôle comme ça, du jour au lendemain.
De toute façon, lui, probablement, se croyait indispensable, d'accord. Puisqu'il y a été, c'est qu'il avait son idée. Il y croyait à son idée.
Bah tiens.
Bon, c'est il pas sur la qualité qu'on doit juger, c'est sur les résultats. Ouais. C'est pas sur le moyen, mais le but.
Mais quelle vertu trouvez-vous donc au pouvoir personnel?
Mais j'ai jamais parlé de pouvoir personnel.
Si, vous parlez de dictature.
Ah, je ne vais pas parler de dictature, pardon.
Moi, je vous citais le général Patakis.
Ah oui. Je ne sais pas. Non, je pars du principe qu'on ne peut pas juger sur le... dans le présent. Mais on ne peut pas augurer de ce qui va se passer en jugeant des... Enfin, si on extrapolait du présent, on ne peut pas prévoir ce qui va arriver. Par exemple, en 1914, en s'engageant dans la guerre, les divers pays européens ne savaient pas quelles seraient les conséquences de leur acte. Alors c'est seulement maintenant qu'on s'en rend compte.
Oui, vous entérinez tout ce qui arrive. Tout ce qui arrive devait arriver.
Oui.
Vous êtes fils de mineur.
Oui.
Boursier.
La père décédée.
Ah bon, votre père est dans la mine?
Non, il est mort d'un infarctus consécutif à un accident à la mine.
Et vous êtes pris en charge par la commune ou bien?
Non. J'ai une bourse d'État et une bourse des mines. Enfin, une bourse des mines, c'est plutôt une sorte de contrat qui m'obligera à travailler plus tard lorsque j'aurai terminé mes études aux mines.
Démocratisation dans ces mines.
Ah oui,
moi, j'étais boursière aussi, il y a plus longtemps que ça. Ma mère était veuve et j'étais boursière aussi.
Enfin, ça ne fait pas partie de notre
programme. Pour citer un exemple...
Non, parce que ça peut faire partie dans la mesure où un écrivain prend sa plume pour dénoncer certaines choses.
Ouais.
Sur un certain ton. Et quand c'est un grand poète comme Aimé Césaire, ça prend tout de suite une largeur, une force que ça n'a peut-être pas sous la plume du journaliste qui fait son papier pour ou contre dans un journal.
Lamartine était peut-être un très grand poète, mais il n'a jamais été un homme politique. La preuve, en 1849, il n'a pas été élu aux élections présidentielles de l'époque.
Oui. C'est pas une preuve.
Enfin, on peut citer ça pour... Parce que vous dites qu'un poète...
Je ne dis pas que tous les poètes sont des hommes politiques.
Non, mais vous dites qu'un poète, étant donné qu'il est célèbre...
Pas du tout. Non, c'est pas ce
donne plus de force à ses idées.
Je dis que quand c'est écrit par un écrivain, un texte qui s'attache à des problèmes graves que nous vivons tous, ça prend plus de force, je crois, que si c'est formulé plus banalement dans un journal.
Si nous parlions un petit peu des poètes du Nord maintenant, étant donné qu'on a parlé sans arrêt depuis le début du Nord, des mineurs.
Parler de Rimbaud.
Van der Besch.
Verhaeren.
Oui, Verhaeren, il y a des choses belles.
Vous disiez tout à l'heure que Zola avait masqué la vérité.
Non. Grossi.
Il avait grossi la vérité. Est-ce que vous connaissez le poème de Rimbaud, je crois, sur les affamés ou...
Les orphelins,
l'histoire des gosses qui sont là devant la boutique du boulanger qui rêve au pain qu'il fabrique.
Et alors ?
Étant donné que Rimbaud et Zola ont vécu à la même époque, il m'étonnerait quand même qu'il y ait deux hommes qui aient menti en même temps. Enfin,
oui, mais un poète, il exagère les mensonges.
Il a sa façon à lui,
C'est exactement le même qu'à Pat, il fait son tableau, nous on se demande ce que c'est, puis lui il le sait. C'est tout à fait pareil.
Surtout les
mêmes
modèles.
On pense voir des yeux sur le plat, et puis total c'est le portrait d'une femme.
De quoi voulez qu'on parle avant de se quitter?
Non, madame Dillard, je voulais que vous nous disiez ce que vous pensez de nous.
Il me semble que la mine, c'est un travail très dur, enfin. Peut-être le plus dur qui existe. Et puis alors, nous sommes très séparés de vous. De par la région et de par le métier. Si vous voulez, on ne vient pas dans le Nord. Il faut le faire exprès. Et vous savez pourquoi, tout bêtement, c'est parce que c'est pas sur le chemin des vacances.
Oui, c'était pour être défavorisé.
On passe dans les... on passe chez les vignerons, on passe en Bourgogne, on passe... Et on passe pas par la mine, jamais. Les routes de France ne passent pas par les mines. Et j'ai eu envie de venir, oui. Et de voir des mineurs. Voilà.
Je peux vous dire quelque chose.
Et pourquoi le Nord?
C'est que Marguerite Duras avait un très grand tract de venir vers vous.
Pourquoi?
Non, de peur que vous me disiez qu'est-ce que ça veut dire, les intellectuels, de quoi vous mêlez-vous?
Pourquoi croyez-vous que la bibliothèque a si bien marché
avec les intellectuels de Paris?
Oui, c'est vrai.
Pourquoi mon mari, qui est simple mineur, regarde avec tant de plaisir les poètes, le club des poètes? Ça passe très tard, trop tard. Mais quand ça passe, on regarde, on l'écoute. Donc on
n'est
pas au bout du monde.
Non, on est un peu abandonné. Vous n'êtes pas.
Vous êtes certainement plus près de nous que nous de vous.
Mais on se sent abandonné.
Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas de télévision sur vous, il n'y en a pas beaucoup.
Ah non, puis alors une seule fois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ils ont fait une émission sur Bruay-en-Artois. Vous vous rappelez, un quartier de Bruay-en-Artois. Je connais très bien Bruay parce que je me suis mariée là-bas. J'ai été écœurée. Je vous assure, c'est exactement pareil que le coin, alors le plus sale, le plus puant qu'ils ont pu trouver, c'est ce coin-là qu'ils ont montré. Mais alors, une petite rue, il y a monsieur qui rit,
elle est sacrément
quoi. C'est une petite rue qui fait peut-être 600 mètres. Vous ne trouverez ça nulle part dans toute la France. C'est justement ce coin-là qu'ils ont passé à la télévision.
Ah bon, nous
j'en étais écœurée.
Une émission.
Et je vous assure, les gens qui viennent ici, puis qui nous regardent avec des yeux, moi, dans le fond, je les comprends, parce que s'ils ont vu ça à la télévision, ils doivent se demander d'où on vient.
Pourquoi le Nord? Pourquoi pas? Et la Lorraine, qui est dans le même cas. Et
oui, pourquoi, aussi bien.
Pourquoi pas enfin, Nantes et ses environs, qui est
absolument
dans le même cas.
Vous voulez choisir une formation prolétarienne large, si vous voulez.
C'est l'Afrique.
Et représentative, quoi, en sorte.
Représentative, exactement. Qu'est-ce que vous dites?
L'Afrique de la France.
L'Afrique de maintenant.
C'est la première fois que vous venez chez nous, Madame Duras?
Oui, oui.
Quelle a été votre impression?
J'avais traversé le pays quelquefois.
Ce n'est pas
gay. Surtout aujourd'hui avec la...
Ma mère était de Lille, vous savez, alors...
On n'a pas été
gâtés. Oui, mais vous êtes un petit peu habitués, alors.
Non, c'est les flancs.
Elle n'était pas de Lille, exactement. Elle était de Frévent, je ne sais pas où c'est.
Ah, bah, c'est pas de Calais, carrément.
C'est en plein dans les collines d'Artois, c'est ce qu'il y a de plus beau dans le Pas-de-Calais.
Ah bon?
Vous n'y êtes jamais allé?
Si, si.
Ou à Frévent?
Si, si, mais ma mère m'y avait emmené. Enfin, ils étaient fermiers, là. Et mon père, alors, était gascon.
C'est le Pas-de-Calais, ça.
C'est pas le Nord.
C'est
le
Pas-de-Calais.
C'est les houillères du Nord et du Pas-de-Calais.
Oui, comparer le Nord, les houillères du Nord et du Pas-de-Calais, c'est pas le même.
C'est pas la même.
Oh, monter dans les carreaux du Nord, non, merci.
C'est encore plus sale que par ici.
C'est ça, c'est incroyable. Moi, je vais te montrer là-bas. Vous ne savez pas qu'ils ont la lumière dans les rues, ça fait
deux
ans.
Ah, vous jouez votre petit Zola aussi, alors.
Non, c'est la vérité.
C'est encore
pire. Non, c'est la
écoutez-moi.
C'est vraiment les mines du Nord montées sur...
M'excuse, madame, moi j'ai des cousins dans la région de Rennes. Ben moi j'estime qu'ils sont très bien.
Bon, mais écoutez, vous avez été très gentil.
Non, non, pas
de m'écouter là, comme ça. Je voulais vous remercier tous d'être venus.
Ça aurait été plus passionnant si vous nous aviez prévenu ou si vous n'avez fait une répétition. Là, vous nous avez pris à la condition.
Ah non, il fallait pas.
On a bon temps.
Oui, on aurait
eu. J'espère qu'on vous a pas trop embêté.
Nous venons d'entendre la veillée de Arn dans le bassin houillé du Nord. Veillée qui réunissait des mineurs, leur famille et Marguerite Duras. C'est demain, dimanche 3 novembre à 21h, que nous retrouverons Michel Butor avec des techniciens de l'énergie atomique de Cadarache et des employés des nouvelles galeries de Toulouse. Quinzaine de la lecture, quinzaine des lecteurs. C'était une veillée de France Culture, une émission de Roger Pilaudin. Assistant Jean-Claude Rondin, réalisation Georges Perroux.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 2 décembre 1967.
Thank you.